Bonjour, dimanche, les Françaises et les Français retourneront aux urnes pour élire les députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Le deuxième tour aura lieu le dimanche 7 juillet entre les candidates et les candidats en lice. Depuis le début de la semaine, vous le savez si vous nous écoutez, nous sommes en direct de midi à 13h. Nous recevons des candidates et des candidats des cinq circonscriptions de la Sarthe pour débattre des enjeux de la constitution de la prochaine Assemblée nationale dissoute par le président de la République au soir des résultats des élections européennes. Quatre questions se posent. Est-ce que la majorité présidentielle conservera ses députés pour soutenir la continuité politique du président de la République ? Est-ce que le Rassemblement national confirmera sa victoire aux élections européennes dans l'ambition de voir arriver sa tête de liste au poste de Premier ministre ? Est-ce que le nouveau Front populaire, réunissant toutes les forces de gauche, parviendra à devenir une nouvelle alternative politique ? Est-ce que les Républicains retrouveront autant de sièges après le séisme du choix de leur président de faire alliance avec le Rassemblement national à l'encontre de la posture de ses dirigeants qui n'y étaient pas favorables. Rappelons que les députés se font l'écho des préoccupations qui touchent leur circonscription auprès de l'Assemblée nationale. En liaison avec les élus locaux, les députés se préoccupent de la situation économique, sociale et plus globalement de toute situation qui concerne leur circonscription. Ils ont donc un rôle particulièrement important puisque ce sont les députés qui aussi votent les lois. Enfin, les députés contrôlent l'action du gouvernement. Ils peuvent interroger directement les ministres, soit par des questions écrites, soit par des questions orales, lors des séances à l'Assemblée nationale. Nous recevons aujourd'hui 4 des 7 candidates et candidats de la 4e circonscription concernant les cantons de Le Mans-Bouloir, concernant les cantons d'Allonnes, Brulon, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Le Mans-Ouest et Sablé-sur-Sarthe, ainsi que la Suze sur Sarthe. Élise Leboucher, qui est députée sortante de la France Insoumise, investie par le nouveau Front Populaire. Sylvie Cazenave-Perret, candidate Ensemble pour la République de la majorité présidentielle. Pierre-Adrien Frère, suppléant de Léo Brizard, candidat Les Républicains, qui ne pouvait pas être disponible en raison de son activité professionnelle. Et Noah Le Rosier, suppléant de Marie-Caroline Le Pen pour le Rassemblement National, qui n'était pas disponible. Bonjour et merci d'avoir accepter notre invitation. Sont aussi candidates et candidats sur cette 4e circonscription. Didier Barbet, divers droite, Thierry Nouchi, lutte ouvrière, et Jean-Michel Brugade, candidat indépendant. Après une brève présentation de votre parcours pour que les électrices et les électeurs puissent mieux vous connaître, pourquoi êtes-vous candidat sur cette 4e circonscription ? Le tirage au sort a désigné pour commencer Noah Le Rosier. Vous êtes le suppléant de Marie-Caroline Le Pen pour le Rassemblement national.
Alors bonjour à tous, donc comme vous l'avez dit, je suis Noah Le Rosier, j'ai 20 ans, je suis actuellement, je rentre en Master 1 de droit à l'université de Tours, et donc je suis le suppléant de Marie-Caroline Le Pen sur cette circonscription. L'objectif, en ayant investi Marie-Caroline Le Pen sur la 4e circonscription, c'était de pouvoir gagner. C'était une demande des militants, puisqu'aujourd'hui c'est anormal que la Sarthe n'ait aucun député du Rassemblement National. Donc on avait cette volonté d'envoyer quelqu'un qui pouvait fédérer autour de lui.
Donc ça veut dire que ça manquait de militants au Rassemblement National local ?
Non, on voulait un candidat qui était capable de rassembler au maximum et de tirer les autres candidats des autres circonscriptions. Au niveau du département, finalement. Donc, c'était un choix des militants. Voilà, je le répète, c'est un choix des militants. C'est les militants qui ont demandé à ce qu'on envoie un nom. Et donc, Marie-Caroline Le Pen a accepté de venir. Comme elle le dit elle-même, c'est un soldat de la politique. Et quand on lui demande de mener un combat, elle le mène. Et c'est ce qu'elle est en train de faire,
d'ailleurs. Noah Le Rosier, il y a des questions qui se posent par rapport à cette candidature de la sœur aînée de Marine Le Pen. C'est comment on peut être candidat et méconnaître un territoire puisqu'elle n'habite pas sur le département de la Sarthe.
Alors, comme elle le dit si bien, elle a des attaches amicales. Elle est déjà venue plusieurs fois dans la circonscription. Elle connaît les enjeux. Voilà, je suis d'ailleurs originaire de la Sarthe. Je ne suis pas né en Sarthe, mais quasiment. Je suis né à Vendôme, plus précisément. Et donc je connais les thématiques et je lui apporte cette connaissance du terrain sartois et je peux vous assurer qu'elle est déjà très bien informée des différents enjeux qui gravitent autour de la Sarthe et notamment de la 4e circonscription.
Vous êtes le suppléant donc de Marie-Caroline Le Pen. Pourquoi avoir accepté d'être son suppléant ?
Eh bien, comme Marie-Caroline Le Pen le disait, nous sommes des soldats de la politique. On m'a demandé en me disant « tu peux être un plus sur cette circonscription, est-ce que tu veux bien y aller ?» J'ai accepté, voilà. En plus, on a quand même, j'ai un parcours assez atypique, je suis un ancien LR, j'ai été candidat en 2022, et donc finalement, à notre niveau, on a fait l'Union nationale.
Justement, vous avez déclaré dans la presse votre choix de quitter LR pour rejoindre le Rassemblement national parce que vous trouviez que les Républicains étaient trop en alliance pour voter les projets du gouvernement et que ça compromettait votre vision gaulliste de la France qui vous anime depuis toujours.
Oui, exactement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, alors j'ai quitté le parti au moment de la réforme des retraites. C'est-à-dire que voir Éric Ciotti, d'ailleurs dont je salue la décision d'avoir un accord avec le Rassemblement national sur ces élections, voir Éric Ciotti sortir de l'Assemblée nationale en étant content d'avoir fait passer, enfin, d'avoir accepté cette réforme des retraites alors que 91% des actifs étaient contre, ça m'a profondément blessé. Vous savez, j'ai cette âme gaulliste et De Gaulle c'était le pouvoir au peuple et donc j'estime qu'un passage en force d'un texte qui vient frapper les Français aussi fortement, c'était pas possible. S'il y avait eu un vote à l'Assemblée nationale, pourquoi pas ? Là, c'était un passage en force qui a été prévu dès le début. Je rappelle qu'ils ont utilisé un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale qui permet donc, par la suite, d'avoir un 49-3 gratuit, comme je l'appelle.
Quand on est au Rassemblement national, est-ce qu'on peut avoir une âme gaulliste ?
Bien sûr. Aujourd'hui, c'est même le seul parti qui a une âme gaulliste.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que, encore une fois, l'âme gaulliste, c'est redonner le pouvoir aux Français. C'est une vision de la France. C'est une certaine idée de la France forte, la France qui doit s'affirmer sur la scène internationale. Et aujourd'hui, seul le Rassemblement national porte ce projet.
Merci Noël Rosier. Pierre-Adrien Frère, vous êtes le suppléant de Léo Brizard, candidat Les Républicains. Une présentation peut-être du candidat Les Républicains. Pourquoi vous êtes suppléant de Léo Brizard et pourquoi vous êtes candidat sur cette circonscription ?
Donc bonjour, Pierre-Adrien Frère, je suis actuellement enseignant vacataire en physique, chimie et en maths, et aussi engagé sur ma ville d'Allonne donc depuis 2014, donc où j'étais candidat déjà au municipal et où j'ai été élu conseiller municipal en 2020. J'ai continué donc mon parcours local en tant que candidat aux élections départementales en 2021 pour la majorité départementale menée par Dominique Lemener et ça me paraissait naturel de suivre Léo dans cette aventure des législatives au soir donc de la décision de Monsieur Macron de dissoudre l'Assemblée. On est tous les deux avec Léo des enfants de la Sarthe. On a vécu toute notre enfance ici, on connaît les problématiques qui importent aujourd'hui aux habitants de la 4e circonscription et plus généralement aux habitants de la Sarthe. Moi j'ai vu les problématiques qu'il peut y avoir sur ma ville d'Allonne, j'ai pu voir les problématiques notamment pendant ma campagne au départemental via le monde rural. Et Léo, vivant lui-même donc à Sablé, qui est, j'estime, toujours dans la ruralité. C'est pas une grosse ville.
Donc, un ancien fief de François Fillon.
Ancien fief de François Fillon, évidemment. On saura défendre les intérêts donc des habitants donc de la 4e en lien permanent avec eux et on saura porter leur voix justement à l'Assemblée. On sera le relais des Sartois à l'Assemblée.
Comment vous percevez cette campagne au titre Les Républicains, puisqu'il y a eu un séisme hein, dans le parti, sachant qu'Éric Ciotti a demandé une alliance des droites en demandant à rejoindre le Rassemblement National à l'encontre de ce que voulaient faire finalement Les Républicains?
Oui, exactement. C'était une initiative donc personnelle, puisque la majorité des cadres de notre parti étaient contre cette alliance des droites, et elle est contre depuis le début. C'est ancré dans l'ADN donc de la droite républicaine, comme le pouvait le dire Monsieur Seguin ou Monsieur Chirac. Jamais, au grand jamais, nous ne ferons d'alliance avec le RN et la branche donc républicaine, on va dire la branche républicaine des Républicains est restée fidèle à leurs idées, et on reste fidèle avec Léo à nos idées, et c'est pour ça qu'on veut aussi proposer une alternative aux trois blocs qui sont aujourd'hui présents à ce débat.
Voilà, le Républicain, c'est, je dirais, prend ses racines avec le général de Gaulle. Enfin, c'est l'histoire de France. Est-ce que, voilà, c'est la question qu'on avait posée à Noah Lerosier, on peut être du Rassemblement National et se revendiquer comme étant gaulliste? Ou c'est incompatible, d'après vous?
Non, pour moi, c'est pas compatible.
Pourquoi?
Tout simplement parce que, aujourd'hui, le général de Gaulle prenait... prenez la démocratie et justement le pouvoir au peuple, et dans une des propositions du RN, c'est tout simplement de privatiser certains médias publics. Et je ne vois pas en quoi privatiser les médias publics, c'est donner la parole au peuple, voilà, tout simplement.
Élise Boucher, vous êtes la députée sortante de la France Insoumise qui est investie par le nouveau Front Populaire. Une petite présentation, et pourquoi êtes-vous candidate à la succession de votre mandat, puisque vous êtes la députée depuis 2 ans?
Oui, bonjour et merci pour l'organisation de ce débat. Donc, comme vous le rappelez, oui, je suis la députée sortante. J'ai été élue il y a 2 ans sur la 4e circonscription avec la NUPES. Je suis éducatrice spécialisée en pédopsychiatrie. Je travaillais pour le PSM de la Sarthe, qui est situé donc à Allonnes. J'habite sur la circonscription, j'y travaille, mes enfants y grandissent. Et du coup, suite à l'annonce de la dissolution, il était évident pour moi que voilà, de repartir pour me représenter, surtout avec cette bannière Nouveau Front Populaire. C'est aussi vraiment cet élan d'union de la gauche, de toute la gauche, qui est vraiment aussi le moteur de cette candidature, pour en finir avec la Macronie, ce qui est un peu le signal fort des conséquences des résultats des européennes. C'est vraiment ce qu'on peut analyser, et surtout empêcher le Rassemblement National d'avoir une députée sur la 4e circonscription.
Le fait que le Rassemblement National soit arrivé largement en tête de ces européennes commence à résonner quand on est une députée de la République.
Ça résonne difficilement, et surtout ça a fait écho, moi, à mon premier vote en tant que citoyenne en 2002. J'avais 19 ans, et de voir arriver Jean-Marie Le Pen au second tour, ça a été un choc. Et on voit que voilà, 20 ans après, ils sont très très hauts, donc c'est aussi la responsabilité d'Emmanuel Macron. On se souviendra de lui comme le président qui a permis d'avoir le Rassemblement National aussi haut. Donc l'enjeu est encore plus fort, et la motivation du coup est encore plus là.
Bon, en tout cas, ça traduisait une attente des électeurs, puisqu'ils ont décidé de mettre le Rassemblement en tête de ces élections européennes. Peut-être préciser qu'il y a une petite coquille, tout le monde en parle ce matin dans la presse, dans votre programme, autant le dire sur Radio Alpa aussi.
La coquille
par rapport à un nom, voilà.
Ah oui, alors c'est vraiment, c'est un tout petit détail, c'est vraiment une erreur, et il n'y a pas de petite bête à aller chercher sur ça, c'est une erreur de transcription de fichiers, ce qui n'empêche qu'il y a 105 élus qui me soutiennent sur le territoire.
Sylvie Cazenave-Perret, vous êtes la candidate Ensemble pour la République, donc de la majorité présidentielle. Après une brève présentation, pourquoi êtes-vous candidate sur cette 4e circonscription?
Bonjour, donc effectivement, je suis très engagée sur mon territoire depuis très longtemps. J'ai eu envie de m'engager pour la première fois dans ce grand enjeu politique, justement parce qu'il y a l'arrivée d'une personne remarquable dans cette circonscription qui avance son nom comme étant un argument de vote. Alors moi, je suis extrêmement choquée qu'on puisse s'exprimer comme ça. Ça fait très longtemps, on a fait quand même la révolution pour sortir de cette logique d'hérédité. Et je suis pour la France de la méritocratie, pour la France qui travaille, pour les gens qui travaillent. Moi-même, je suis née dans un quartier très populaire de Nantes qu'on appelait le Bas de Chantenay. Je suis enfant d'artisans, d'ouvriers, et j'ai ma vie a été consacrée au travail, au bien commun, au partage des résultats. Donc la Sarthe, pour moi, c'est toute ma vie, puisque j'ai 4 enfants sur mes 5 enfants qui y sont nés. J'ai habité, j'étais très contente assez longtemps là, place du Halet, rue des Chanoines. Donc j'ai envie de servir mon territoire. J'ai cette culture de service sans aucun calcul politique, sans aucun calcul de carrière.
Mais vous avez quand même accepté d'être investi pour la majorité présidentielle. C'est votre première aventure dans une campagne électorale ?
Alors, tout d'abord, il y a un mouvement qui s'est créé, qui s'appelle Ensemble, qui réunit des partis, on va dire, du centre. Moi, je n'ai pas de carte de parti politique. J'ai accepté ce défi. Ce n'est pas un défi facile, parce qu'effectivement, le bilan du président Macron est beaucoup contesté. Mais en même temps, il y a aussi des choses qui nous ont été positive, notamment pendant la période de Covid, et on y reviendra sans doute plus tard. Donc moi, je suis quelqu'un de concret, pragmatique, je n'oublie pas, j'essaie d'apporter un peu de raison dans ces débats. Et pas de violence, moi je trouve que c'est incroyable, je suis vraiment très heureuse de rencontrer les gens autrement, parce que j'emploie 110 salariés au Bailleul, comme beaucoup de gens ici le savent, et j'ai déjà cette culture du partage dans l'entreprise, et je partage énormément aussi au sein des rencontres que je fais en ce moment dans cette campagne éclair.
Concernant la quatrième circonscription pour laquelle vous voulez être député, comment se déroule sur le terrain votre campagne? Qu'est-ce que vous disent précisément les gens, Nora Le Rossier?
Alors déjà, je voudrais répondre à Madame Cazeneuve qui est... Marie-Caroline n'est pas venue en faisant campagne sur son nom, contrairement à ce qui est affirmé. Elle est venue et elle est sur le terrain en permanence. C'est-à-dire que tous les jours, nous sommes sur le terrain. On va dans des petits villages un peu éloignés et les gens nous disent « on voit personne ». Voilà. C'est la phrase qui ressort tout le temps. On ne voit personne. Donc ils sont plutôt contents justement qu'on leur propose une candidate qui vient sur le terrain, qui va les rencontrer, qui discute avec eux, qui écoute leurs revendications. Voilà. C'est le retour du terrain, le retour que je veux faire parvenir à nos électeurs. Et donc, d'un point de vue plus général, donc justement, comme je disais, on discute avec tout le monde. Et les gens sont plutôt contents, en fait, d'avoir qu'on leur envoie Marie-Caroline Le Pen, puisqu'ils savent qu'il y a un danger à combattre, qui est celui de l'extrême gauche, ici représentée par Madame Le Boucher.
J'ai pas vu Lutte Ouvrière autour de la table.
Non, Lutte Ouvrière, madame, c'est vous qui avez investi Raphaël Arnaud qui est fiché S.
C'est
vous.
C'est pas moi.
Si, c'est la France Insoumise, c'est votre parti, madame. C'est votre parti, madame. C'est votre parti qui a investi monsieur Raphaël Arnaud.
Et donc, Marie-Caroline Le Pen, on parle de la société d'édition de la SERP qui a édité les discours
de
Claire.
On peut y aller si vous voulez sur le
donc
sujet.
On va passer à autre
Quand
chose.
Marie-Caroline est venue, elle a repris la société, elle l'a transformée. Oui, effectivement, c'est un fait. Mais vous, en tout cas, si vous êtes...
Alors, ce que je propose, c'est qu'on est dans un débat local. Si on peut rester
attendez,
dans le local, il y a suffisamment de débats nationaux qui en jouent.
Je vais quand même...
Justement, si vous permettez, ce que vous venez de dire, monsieur, je trouve ça dramatique. Parce que quand vous dites les Sartoises et les Sartois de la 4e circonscription ne voient personne, eh bien, ils ont des maires extrêmement dévouées.
Excusez-moi, leur mère, monsieur, mais que personne ne vient
pas.
Voir.
J'essaie d'intervenir dans le débat. Donc, ils ont des maires extrêmement attentifs. Tout le monde sait aujourd'hui que le maire, c'est la première personne qui va soutenir son territoire, qui identifie les problèmes, qui accompagne les gens. Et ça, je trouve que vous faites un procès d'intention, de méconnaissance de nos territoires, absolument.
Madame.
Je voudrais juste rebondir sur le fait que... Comme vous l'avez dit, Monsieur Breton, on est sur un débat local. Le but, c'est de représenter les habitants de la 4e.
Oui, sinon, on va regarder les chaînes nationales.
Et là,
on va pas refaire la même chose.
Et là, on voit juste un duel entre deux blocs extrêmes. Et c'est pas forcément le débat, en fait. Je voudrais bien qu'on ressente sur les préoccupations des
habitants. Et au niveau des maires, les maires nous disent bien qu'ils ne voient personne. Les gens nous disent qu'ils ne voient pas d'élus, et les maires aussi. On a été en voir plusieurs. C'est le même discours à chaque fois. On n'a personne. On se sent délaissé, on se sent noyé dans la lourdeur administrative, on se sent noyé parmi les communautés de communes qui sont notamment dans les petits villages de plus en plus critiqués. Et ça, c'est juste des faits. Je vous fais un retour de terrain, madame Cazeneuve.
Vous voulez parler de quelle communauté de communes? Moi, j'en connais des communautés de communes dans la Sarthe et dans la 4e circonscription. BLN, par exemple,
oui.
Qui est extrêmement efficace, qui apporte énormément à son territoire. Moi, j'en ai un peu assez d'entendre des sottises sur notre circonscription. Et c'est l'objet de mon engagement pour les Sartoises et les Sartois qui voudraient bien regarder et qui voudraient bien accepter que finalement... une Sarthe pacifiée, ce serait pas mal non plus.
Vous portez l'étiquette LREM qui a méprisé les maires pendant 7 ans, Madame Cazeneuve.
Il n'y avait, excusez-moi, aucun député LREM que je sache dans la 4e circonscription de la Sarthe.
Au niveau national, madame.
Bon, monsieur, et en Sarthe, on parle de la Sarthe, là.
Vous avez des députés en Sarthe. Et les maires nous disent bien qu'ils se sentent méprisés par la politique que votre majorité, que la majorité présidentielle sortante Ah, mépriser.
Noël Rosier. Noël Rosier. Alors ça, voilà, c'est un point de vue que vous nous donnez. Voilà, les maires regrettent qu'on les voit,
qu'on les voit pas.
On les voit pas. Mais les habitants, ils disent quoi précisément? Qu'est-ce qu'ils attendent sur cette circonscription de cette
élection? Ils attendent justement qu'on porte leurs revendications. Donc c'est tout d'abord le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Ils nous en parlent tout le temps. À chaque fois, ils nous le disent. Il y a encore 5 ans, on pouvait sortir sans compter.
On va en parler dans quelques instants. Oui.
La santé également.
Donc c'est surtout ça qui ressort des personnes.
Santé
qui vont...
et pouvoir d'achat notamment, et dans une moindre mesure transport, mais finalement c'est un peu lié avec le pouvoir d'achat.
Pierre-Adrien Frère, que vous disent sur le terrain les personnes que vous rencontrez dans leurs préoccupations de cette 4e circonscription?
Alors les préoccupations, il y en a, on dira 4, celles qu'on a axées sur notre... sur notre profession de foi et sur notre campagne, c'est tout d'abord le pouvoir d'achat. Parce que tout simplement, les gens, comme ils l'ont dit sur plusieurs reportages sur France 3, tout devient cher. À l'époque, je vais reprendre des mots d'une habitante qui a fait un témoignage. Hein. Avec 50 euros, elle arrivait à remplir son caddie. Aujourd'hui, elle est obligée de doubler son, elle est obligée de doubler cette somme. La France est aussi, et la, notre circo, c'est aussi la ruralité. Et il y en a beaucoup qui travaillent donc, et qui doivent obligatoirement utiliser leur véhicule. Donc, au grand dam de M. Macron, qui voudrait que tout le monde ait des voitures électriques à 45 000 euros, tout le monde n'en a pas les moyens. Et ils sont obligés de rester avec leur voiture thermique. Et donc aujourd'hui les taxes qui incombent donc à ce type d'énergie sont énormes et taxent beaucoup le portefeuille des Sartois. Évidemment, il y a aussi la ruralité, le fait qu'ils ont l'impression d'être abandonnés par un peu par l'État. Parce qu'aujourd'hui, on indexe énormément d'argent sur les villes. Les banlieues, les quartiers populaires prioritaires, mais peu sur la ruralité, entre guillemets la campagne. Et c'est pour ça que nous on propose que 1 euro dépensé dans la ville soit 1 euro dépensé dans la ruralité.
Élise Leboucher, vous oui. êtes la députée sortante. Que vous dit sur le terrain, suite à ces élections, les électrices et les électeurs dans leurs préoccupations quotidiennes?
Déjà, reprendre quand même les propos de Noël Rosier sur le fait que les habitants ou les élus ne voient personne. Moi, pendant 2 ans, j'ai rencontré plus d'une 60aine de maires sur les 72, si on compte la ville du Mans, sur les 72 communes qu'il y a sur la circonscription. J'ai rencontré plus de 400 personnes dans les 72 permanences que j'ai tenues tout le long de, sur tout le territoire. Et les sujets qui ressortent déjà depuis 2 ans et en effet sur les gens qu'on rencontre là dans la campagne, il y a vraiment 2 sujets forts, c'est le pouvoir d'achat et les services publics. C'est l'essentiel d'ailleurs des demandes des personnes que je rencontrais dans mes permanences. C'est le recul des services publics qui se ressent très fort, notamment sur, en ruralité. Et d'ailleurs, j'ai noté que le collectif Nos Services Publics a analysé les 4 programmes là, qui sont autour de la table et pointe que dans les 3, donc de la majorité Rassemblement National et LR, ils continuent d'accélérer le recul de nos services publics et de mettre le privé vraiment très haut. Donc nous, à l'inverse, on fait un investissement massif pour les services publics et notamment sur un accueil physique dans les services publics, parce que c'est vraiment ce que nous disent les gens. On n'a plus personne au bout du fil, on ne voit plus personne et ça met les gens dans des situations d'accès aux droits très compliquées. Donc ça, c'est vraiment le sujet majeur, avec bien sûr le pouvoir d'achat. On sait que dans la 4e circonscription, nous avons la ville de Sablé qui est l'une des plus pauvres de la région. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a des mesures très très fortes et très concrètes et urgentes dès le début du gouvernement.
On en parlera justement dans quelques instants du pouvoir d'achat, puisque c'est la priorité des priorités dans cette campagne électorale. Sylvie Cazenave-Perret, qu'est-ce que vous disent, vous, les gens que vous rencontrez sur le terrain, leurs préoccupations principales?
Alors, la même chose, c'est un fait. Je pense que la préoccupation principale dans nos communes, c'est vraiment le manque de médecins. On le vit à cet hôpital de Loyal, au pôle santé Loyal-le-Bailleul, qui a été créé d'ailleurs par François, à l'initiative de François Fillon à l'époque, avec le maire de La Flèche,
Pas sûr que ce soit une très bonne idée. Aujourd'hui.
Non, mais c'était un travail collectif de terrain qui a été fait, qui aujourd'hui est vraiment remis en question. C'est compliqué. On a des médecins qui viennent de toutes origines d'Europe. Heureusement, mais on manque encore à Sablé, par exemple, d'un pôle santé une maison médicale qu'on essaie de développer, qui a été validée. Et donc, on essaie de construire cette hypothèse-là. Maintenant, ça, c'est la santé. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi une population qui vieillit dans le monde rural. On a beaucoup de jeunes qui ont quitté le monde rural. Et cette population qui vieillit, elle a besoin, évidemment, de soins de proximité. On nous parle aussi beaucoup de trajets domicile-travail. Ça, c'est un coût. On parle de pouvoir d'achat, mais c'est un coût extrêmement important. Un véhicule assuré, entretenu, ça pèse à peu près entre 400 et 500 euros pour une personne pour aller à son travail. Et si, par exemple, sans doute à Alonne, on a des transports collectifs, eh bien on n'en a pas vraiment de très efficace, en tout cas d'adapter au monde de l'agriculture, au monde industriel, dans notre circonscription.
Voilà, on en parlera justement dans ce débat, parce que le point ruralité est important aussi dans cette circonscription, même si effectivement il y a une partie du Mans qui est aussi concernée par cette quatrième circonscription. Le pouvoir d'achat, vous le savez, c'est la priorité des priorités, c'est ce qui va faire que les gens vont voter pour tel ou tel candidat dimanche. Quelles mesures économiques et sociales vous préconisez pour améliorer le pouvoir d'achat des Français avec la contrainte du déficit de la France? Rappelons que la France a été rappelée à l'ordre par la Commission européenne le 19 juin. Elle devra donc apporter des mesures dans son budget 2025 pour déficit excessif. Sylvie Cazeneuve-Perry, justement, le tirage au sort vous a désigné. Par rapport à ce pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le pouvoir d'achat quotidien des électrices et des électeurs de cette circonscription et plus globalement des Françaises et des Français?
Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas un perroquet, donc je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que proposent les partis, tout ça me paraît... On a tous les mêmes intentions, hein. Tous ces partis, tous les candidats ont les mêmes intentions, ce sont juste...
Pas vraiment.
Si, d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, on peut dire que c'est l'intention, c'est l'objectif. On n'a pas les mêmes moyens d'y arriver. Donc ça me paraît important de le souligner. Ensemble propose d'augmenter, par exemple, les retraites des Français. Ça me paraît, dans notre circonscription, adapté à notre circonscription et à la population de notre circonscription. En tout cas, qu'elles suivent le taux d'indice des retraites qui suivent le taux de l'inflation. Ça me paraît extrêmement bien. La deuxième chose qui me paraît vraiment peut-être la plus importante, la plus efficace tout de suite, c'est de réduire le coût de la facture énergétique. Alors, il y a déjà eu le bouclier énergétique l'année dernière. Ça, c'est vraiment quelque chose, l'énergie. On peut accuser tout le monde, mais personne n'avait prévu la guerre en Ukraine. Et donc, ça, c'est une situation terrible pour tous les pays d'Europe. Et tous les pays d'Europe ont vu leur facture énergétique augmenter. Et les Sartois et les Sartoises aussi, bien sûr.
Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui ont abusé de cette situation et qui en ont profité pour tout augmenter, tout simplement, puisque avec cette crise, avec l'inflation, on nous dit, tous les prix ont augmenté, mais on ne peut pas revenir en arrière.
Alors, de mon point de vue d'industriel, de PME industriel, hein, en employant 110 personnes, on est vraiment une industrie modeste sur notre territoire, tout a augmenté dans nos coûts. Les coûts de transport, on n'arrive plus à trouver des chauffeurs. Les coûts de matières premières, la matière première s'est raréfiée sur toute la chaîne de production. Le coût de fabrication des machines, des services aux entreprises, donc sauf à déposer le bilan. Et vous savez peut-être que je m'occupe pour la Sarthe de APESA 72. On a donc qui s'occupe des entrepreneurs en souffrance aiguë qui pense au suicide, et ça c'est très très grave, on a beaucoup d'alertes sur ce plan-là, mais il y a pour les entreprises, mais aussi pour les artisans, les commerçants, tous nos approvisionnements ont augmenté. Si on n'augmente pas les prix, on ferme.
Merci Sylvie Cazeneuve-Perret. Noah Le Rosier, on rappelle, hein, vous êtes le suppléant de Marie-Caroline Le Pen pour le Rassemblement National. Vous, sur le pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous proposez aux électrices et aux électeurs et aux Français plus globalement?
Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qu'Emmanuel Macron va nous laisser, une situation budgétaire, catastrophique, avec plus de 3000 milliards de dettes, dont 1100 milliards depuis qu'il est président. Ce qui fait que les mesures devront être adoptées selon un calendrier bien précis, le temps de réaliser un audit des comptes, puisqu'on a des raisons de penser qu'une fois au pouvoir, nous allons continuer à découvrir certaines problématiques budgétaires.
Après, les comptes sont connus à l'Assemblée nationale, il y a une commission des finances.
Oui, mais il y a un rapport
finances,
du Sénat très récent.
Il y a
récent.
Des comptes.
Oui, mais le rapport du Sénat très récent laisse penser que
d'accord.
Il y aurait encore des découvertes si on creuse un peu plus. Donc déjà, on fera un audit des comptes publics. Mais on a deux mesures d'urgence. Déjà, deux mesures vraiment qu'on va prendre immédiatement pour aider les Français. Tout d'abord, c'est la baisse de la TVA à 5,5% sur l'ensemble des énergies. Dans un département aussi rural que la Sarthe, dont la quatrième circonscription, bien évidemment, qui est très rurale aussi d'ailleurs, ça va parler aux Français. C'est-à-dire que déjà, ils vont gagner plusieurs dizaines d'euros, voire centaines d'euros par mois au niveau de leur facture, au niveau de leur quand ils vont à la pompe pour faire leur plein. Et la deuxième mesure urgente qu'on pourra faire, c'est baisser le prix des factures d'électricité de 30% en allant voir la Commission européenne et en renégociant pour le prix, hein, avoir un prix français de l'énergie, enfin de prix français de l'électricité, puisqu'aujourd'hui donc, nous avons des centrales nucléaires qui nous permettent de produire une énergie, une électricité peu chère, mais avec les règles du marché européen, aujourd'hui les Français ne peuvent pas en bénéficier, alors que c'est leur argent hein, d'ailleurs, qui a financé la construction de ces centrales nucléaires. Je voudrais également dire que Mme Cazeneuve a dit qu'elle voulait baisser la facture d'énergie alors que le 1er juillet, le prix du gaz va augmenter de 15%. Donc finalement, avant même d'être élue, la promesse part déjà en fumée.
Élise Leboucher, par rapport au pouvoir d'achat, que propose le nouveau Front populaire ?
Nous, là-dessus, on a vraiment un programme de rupture avec les politiques de Macron sur ces questions-là, parce qu'il y a... On entend Gabriel Attal arriver, Mme Cazeneuve-Perret, par sa voix, avec un peu une liste de Noël. Mais ceux qui sont au gouvernement depuis 7 ans, ils n'ont rien fait pour ça. Et pour le Rassemblement national, depuis 2 ans, il y avait des mesures proposées à l'Assemblée, ils n'ont pas voté pour. Alors nous, il y a une mesure très très forte qui est dans les 15 jours de gouvernement, qui est celle de bloquer les prix des biens et de première nécessité dans l'alimentation, ce qui est vraiment une réponse d'urgence et de quotidien pour les gens, pour leur apporter... vraiment du souffle et de l'air dans leur porte-monnaie. C'est très facile à faire, ça se fait sur l'île de la Réunion et le code de commerce le permet, donc c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Il y a aussi une mesure, moi je pense aussi, notamment dans la quatrième circonscription, c'est pour nos agriculteurs, à leur permettre aussi d'avoir un revenu digne, puisqu'aujourd'hui on l'a vu, hein, ils se sont manifestés. Les agriculteurs vivent difficilement de leur métier, donc nous on propose hein, ce garantie de prix plancher pour nos agriculteurs.
Alors c'est quoi ce prix plancher ?
C'est leur permettre de vendre leurs produits avec un plat plancher, du coup qu'on ne descend pas en dessous. Pour être leur garantir.
Il est fixé ce prix plancher ou pas ?
Non, il n'est pas fixé. C'est aussi des négociations selon les filières.
D'accord.
Vous savez qu'il y a plusieurs filières dans l'agriculture et on ne peut pas avoir le même plancher pour toutes et tous.
Si je vous pose la question, c'est parce que les gens veulent du concret.
Bien sûr,
vous savez,
tout à fait. Quelque chose de très concret dans nos mesures sur le pouvoir d'achat et qui concerne énormément de familles, c'est la vraie gratuité pour l'école, notamment sur les fournitures scolaires, la gratuité de la cantine. Aujourd'hui, les parents, les familles, ils dépensent entre 900 et 1700 euros par enfant pour l'école. Donc c'est un vrai impact sur le budget. Donc nous, on propose vraiment cette gratuité. D'ailleurs, certaines communes le font. Je pense à Allonne, justement, pour les fournitures scolaires pour les familles. Je pense que c'est très apprécié par les familles à Allonne. Et nous, on propose de le généraliser. C'est vraiment, voilà, vous vouliez du concret, ça c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place.
Pierre-Adrien Frère, sur le pouvoir d'achat, que propose le candidat républicain ?
Alors nous, tout ce qu'on propose, c'est de traiter le pouvoir d'achat à la racine, tout simplement en fait sur la fiche de paye. C'est rapprocher le salaire net du salaire brut, tout simplement parce que aujourd'hui, quand on regarde une fiche de paye, on voit que une bonne partie du salaire brut va à l'État au lieu d'aller aux Français, sachant
alors,
que c'est lui qui l'aille.
Je suis pas assuré que ça aille à l'État.
Non, mais cotisations sociales
et
ainsi de suite. La sécurité sociale, on est d'accord.
C'est la prise en charge de nos retraites, c'est la prise en charge de la...
Ouais. Le but, nous, c'est de diminuer les charges sociales de façon à ce que les Français aient un véritable gain de pouvoir d'achat directement à la source. Évidemment, ça passe aussi par l'énergie. Comme je vous le disais, il y a beaucoup de gens qui utilisent leur voiture tous les jours. Donc nous, ce qu'on veut, c'est baisser la taxe sur l'énergie, notamment sur l'essence, de façon à ce qu'ils gagnent 5 euros par plein à chaque fois qu'ils vont à la pompe, sachant que, par exemple, on va prendre l'exemple par exemple d'une infirmière libérale. Vu le nombre de kilomètres qu'elle fait dans sa journée, c'est énorme en gain de pouvoir d'achat et évidemment pour elle sur sa fiche de paye. Voilà. Donc.
Alors, je voulais quand même revenir sur la question du bulletin de salaire, parce que ça, ça intéresse vraiment les gens. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'entre le net que salarial qu'on perçoit et le brut, qui est d'ailleurs le montant du salaire affiché quand on va chercher un emploi, comment vous faites pour réduire cette marge, puisque vous venez de nous dire que vous voulez réduire la marge entre le brut et le net?
Tout simplement, comme je vous l'ai dit, en baissant les cotisations, en baissant les cotisations sociales sur le salaire brut.
Alors, comment vous faites pour financer la sécurité sociale?
Alors derrière, évidemment, c'est tout un, on peut, elles sont financées par notamment un contrôle plus régulier au niveau des allocations chômage. De façon à faire des économies. On peut pas vraiment parler d'économies en ce qui concerne l'entraide, mais on voit que ça pourrait générer 6 milliards de revenus en plus, notamment sur l'État, donc délocaliser cette économie sur les charges sociales.
Merci Pierre-Adrien Frère. On rappelle que vous êtes le suppléant de Léo Brizard, candidat Les Républicains. Comme nous l'indiquions dans notre débat d'hier, en zone rurale, les préoccupations quotidiennes, et vous en avez d'ailleurs quelque peu, même un certain nombre de choses parlées, sont très différentes par rapport aux préoccupations des zones urbaines, désertification médicale, fermeture de classe, sentiment d'abandon des services publics, mobilité qui oblige à prendre sa voiture. Quelles sont vos propositions pour justement améliorer le quotidien des électrices et des électeurs de votre circonscription? Je vous propose de ne pas revenir sur ce que vous nous avez déjà dit, mais peut-être pour préciser certaines choses, Sylvie Cazenave-Perret, puisqu'on commence avec vous, avec le tirage au sort. Vous êtes la candidate ensemble pour la République majorité présidentielle.
Donc pour améliorer le quotidien de nos populations en milieu rural et dans notre circonscription, on a beaucoup développé d'initiatives autour de Sablé dans un collectif d'employeurs qui permet de mutualiser un certain nombre de contraintes et de coûts qui touchent directement nos salariés. Et donc, particulièrement, mais c'est un exemple, moi je suis un petit peu un laboratoire d'essai. Ce qu'on a fait chez nous, c'est de proposer à chacun des salariés, ça a été évoqué tout le temps, hein, le coût de l'énergie, etc., du tarif à la pompe, c'est sûr, mais il y a aussi le coût du véhicule, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Donc nous, on cofinance avec le salarié qui prend en charge seulement 2 euros par jour pour l'entretien du véhicule compris, l'assurance comprise. C'est une initiative dont j'aime bien parler, parce que vous voyez, moi, j'ai
c'est
pas attendu... ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas tout attendre de l'État, on ne peut pas tout attendre du législateur. On doit aussi, dans les territoires, avoir des convictions citoyennes, comprendre le problème des uns et des autres et dire, ben moi, je m'engage, je prends un risque. On m'a beaucoup dit qu'on prenait des risques, mais ce risque-là, aujourd'hui, il est connu. On entraîne 80 de nos salariés dans ce dispositif qui est renouvelé aujourd'hui. On en a fait l'expérience. Non seulement on réduit notre impact environnemental, mais on apporte une vraie sécurité, une vraie liberté à nos salariés.
Donc vous êtes en train de nous dire, Sylvie Cazenave-Perret, que vous demandez aux entreprises de faire un effort pour leurs salariés. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Non, je demande
pas ça. Parce que si
c'est
pas l'État, c'est qui ?
Je demande pas ça, mais nous, on le fait. Et ça améliore la situation de l'entreprise. C'est pas un effort. Faut pas regarder les choses de manière manichéenne. C'est un dispositif qui permet d'améliorer le sort des salariés, de les fidéliser aussi à l'entreprise pour ceux qui s'engagent dans ce dispositif. Vous savez que les entreprises ont du mal
à recruter. C'est plutôt rare.
C'est très rare. Je pense qu'nous sommes une des seules entreprises en France à avoir développé ce dispositif. Mais pourquoi pas? Quand on a une volonté, on peut aussi de la sorte faire de la politique dans nos entreprises sociales.
Noël Rosier.
Je pense que Mme Cazenave n'a pas compris qu'elle était candidate à une élection législative et qu'elle n'était pas la porte-parole de son entreprise. Finalement, qu'est-ce qui ressort de toutes ces mesures? Mon entreprise a fait un financement pour les voitures. Très bien, mais concrètement, qu'est-ce que vous pouvez proposer en plus de ce que vous avez fait dans votre entreprise ? En plus, pour les Français ? Parce que toutes les entreprises ne feront pas comme vous. Hein.
Alors, j'ai déjà dit que je n'étais pas un perroquet, donc je ne répéterai pas à l'envi, d'ailleurs, ma profession de foi n'est pas vraiment une profession de foi, je le dis partout sur le marché, c'est une profession de fait. Je pense que les électeurs et les électrices sont aujourd'hui là des promesses, on l'a dit tout à l'heure, les promesses non tenues. Donc moi, je suis quelqu'un qui fait.
Mais en même temps, ils en attendent.
Ils en attendent parce qu'ils espèrent. Il y a beaucoup de désarroi. Mais moi, je fais et je ne veux pas prendre de promesses qui ne soient pas tenues envers les électeurs et les électrices de la Sarthe.
Donc, conclusion de ces deux minutes. Si vous voulez avoir des mesures pour votre pouvoir d'achat, allez travailler dans votre entreprise.
Finalement, non, allez travailler,
je ne fais
ça,
pas de promesses.
Sûr.
Je ne fais pas de promesses.
Ça, c'est sûr.
Excusez-moi, mais les Français et les habitants de la 4e circonscription de la Sarthe attendent quand même plus que moi dans mon entreprise. On a mis en place telle initiative. Concrètement, vous proposez rien.
Croyez-moi que cette initiative est très connue, elle remporte les suffrages et je l'entends partout
Noël Le Rosier, qu'est-ce que vous proposez, vous, justement, par rapport à la désertification médicale, la fermeture de classe, le sentiment d'abandon des services publics ?
Ah ben, concrètement, le Rassemblement National a quand même un projet de ruralité. Ça fait longtemps qu'on défend la ruralité, qui sont les grands oubliés des mandats d'avant et notamment d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, en Sarthe, dans la 4e circonscription, mais dans la Sarthe en général, on a un problème avec la santé. Il n'y a plus de médecins. J'ai vu un chiffre assez récemment, il manque environ 290 médecins pour qu'on atteigne le taux dit de acceptable de soins pour avoir un médecin pour 1000 habitants. Acceptable. C'est pas très bien, acceptable seulement. On a également des problématiques liées aux services hospitaliers, avec notamment l'hôpital du Bailleul qui a récemment été encore fermé pendant tout un mois, à l'exception de 7 jours. C'est ça exactement, c'est 7 jours et encore c'est de 8h30 à 20h30 et c'était 7 jours pendant le mois de mars. Donc aujourd'hui on a quand même un problème, on a le service des urgences du Mans qui sont mais complètement dépassés par ces fermetures. Il accueille 70 000 patients par an alors qu'il est conçu pour 40 000. Donc on voit qu'on a quand même un engorgement du secteur de la santé en Sarthe qu'il faut combattre. Et donc face à ça, on a quand même des solutions qui sont immédiates.
Alors lesquelles ?
Eh bien donc déjà, premièrement, pour mettre un terme à cette désertification médicale, on propose une incitation financière. C'est quand même tout.
Alors c'est quoi comme incitation
financière ? Eh bien c'est-à-dire qu'on exonère d'impôt sur le revenu les revenus tirés du travail des médecins partis en retraite qui décident de reprendre leur activité.
Donc vous demandez aux médecins de la retraite de venir bosser.
En attendant, parce que un médecin, ça prend
ça risque
plusieurs
de prendre un certain temps.
Ça prend du temps. Et donc, par ailleurs, ce qu'on propose corrélativement, c'est la fin du numéracus.
Ça tient beaucoup avec des médecins retraités qui reviennent, oui, ils reprennent. Les EHPAD.
Mais là, justement, on leur propose une incitation supplémentaire. Parce que, c'est-à-dire que vous êtes en retraite, vous pourriez vivre tranquillement votre vie. Il faut quand même que vous ayez une envie, il faut quand même qu'on vous donne une certaine volonté en plus pour retourner travailler. Et donc on pense qu'avec cette mesure, il y a davantage de médecins. Et ça, c'est une mesure de court terme. C'est une mesure de court terme qui vise à lutter contre la désertification médicale, parce qu'un médecin, ça met 10 ans à former. En même temps, ce qu'on propose, c'est la fin du numerus apertus, qui a été mis en place par Emmanuel Macron, et finalement, on se rend compte que c'est pas une solution.
Je voudrais préciser aussi qu'il y a déjà des médecins, moi je le vois déjà dans ma ville d'Allonne, qui devraient déjà être à la retraite et continuent. Donc je ne pense pas.
Et on peut les remercier de poursuivre.
Je ne pense pas qu'il y en ait qui soient déjà à la retraite, qui veuillent reprendre du service. Au contraire.
Si, il y en a certains qui voudront reprendre du service.
Bah, allez voir les médecins, ils vous diront.
Dans ma commune, il n'y a plus de médecins. Et donc si on leur propose une incitation financière en plus, je vous assure qu'ils pourront revenir.
Pierre-Adrien Frère, puisque vous avez la parole, vos propositions pour.
Les déserts médicaux, c'est justement un fléau sur notre circonscription. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est flécher les nouveaux diplômés en médecine sur leur première année d'exercice, les envoyer sur un désert médical. Et ensuite, évidemment, avoir en concertation avec l'Ordre des médecins et tous les syndicats du corps médical, voir comment on pourrait aussi les maintenir, maintenir ces jeunes médecins sur les déserts médicaux pour leur donner envie de rester dans nos campagnes, dans nos villes et sur notre circo. Voilà.
Sur d'autres sujets
Sur d'autres sujets, il y a notamment la solidarité qu'on pourrait mettre en place, notamment aux familles monoparentales. Enfin, pas monoparentale, avec un seul enfant, pardon, excusez-moi.
C'est monoparental.
Monoparental, bon, alors, pardon.
Enfin, la non. femme est seule.
Enfin, juste les familles avec un enfant.
Oui.
Voilà.
Ah, c'est pas la
maître. Voilà, c'est pour ça que je me suis mal exprimé. Et nous, ce qu'on veut, c'est une allocation dès le premier enfant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a des aides quand on a deux enfants. Par contre, quand on n'en a qu'un seul, eh ben, les familles, elles sont un peu, une expression populaire, un bec dans l'eau. Elles doivent se débrouiller pour toutes les dépenses. Il n'y a absolument aucune aide. Donc, je vois pas pourquoi avoir qu'un seul enfant, ce serait moins bien qu'en avoir deux. Et donc, je vois pas pourquoi on les aiderait pas autant. Voilà.
Élise Leboucher, oui. Par rapport aux préoccupations qui concernent la ruralité.
Oui, alors un mot sur la question de la santé, ça a été évidemment repris vu le sujet majeur que c'est sur la 4e circonscription. Nous, on est favorable à la régulation, l'installation des médecins sur les territoires en tension. Je l'ai voté d'ailleurs à l'Assemblée nationale, mais pour être plus précis, c'est une régulation aussi temporaire de 3 ans maximum pour permettre d'atténuer les difficultés. Mais aussi une proposition de décentralisation universitaire aussi pour les études de médecine, qui est aussi ce qu'on appelle une universitarisation de territoire, pour qu'aussi les étudiants en médecine, des jeunes de nos territoires, aient moins de freins aussi pour entrer en école de médecine et du coup restent sur leur territoire, parce qu'on sait que les jeunes étudiants vont à Nantes, à Angers, à Rennes, et après voilà, ils font leur vie, ils font leur réseau social, amical, et ils restent du coup dans ces territoires. Donc voilà, on fait le pari que ça pourrait aussi permettre à nos jeunes d'être au sein du territoire. Pour la ruralité aussi, on évoquait la question de la mobilité. On a un réseau régional à l'EOP, initié par Madame Morancet. Donc, du coup,
la présidente de la région
qui est le soutien de Madame Cazeneuve-Perret. Donc, vous reconnaissez qu'il n'est pas suffisant. Mm-hmm. Nous, on propose la rouverture du transport ferroviaire de proximité. On a dans la circonscription une ville comme La Suze, Noyen, qui sont desservies par des gares et on voit l'utilité. On propose de la généraliser. Et aussi un mot aussi sur un point essentiel de nos ruralités, moi je le constate depuis 2 ans que je rencontre énormément de monde, c'est le milieu associatif dans nos ruralités qui est très présent. Il y a une dynamique associative très très forte et qui permet de maintenir du lien social et que les personnes ne se sentent pas isolées. Et il faut continuer de soutenir le milieu associatif.
Voilà donc pour ces questions qui intéressent les personnes qui habitent à la campagne. Alors l'environnement reste toujours d'ailleurs l'une des préoccupations majeures des Français, malgré le contexte économique et politique. Parmi les principales conséquences du réchauffement de la planète et du réchauffement donc climatique, une diminution de la disponibilité en eau et des rendements de cultures, ainsi que des risques accrus de sécheresse, de perte de biodiversité, d'incendies de forêt et de vagues de chaleur. C'est tout ce qu'on a dit durant cette semaine. Quelles sont vos propositions pour répondre à l'urgence climatique concernant notamment l'environnement, qui fait partie des points qui intéressent notamement particulièrement les jeunes, mais je dis toujours pas que. On commence avec vous, Noah Lerosier.
L'environnement, c'est un sujet qui est majeur. La crise climatique, le réchauffement climatique...
On va faire très rapidement, si vous voulez bien.
Très bien. Bon, je vais faire très court.
Non, mais c'est pour vous quatre.
Non, mais donc nous, déjà, ce qu'on propose, c'est d'arrêter avec l'écologie dogmatique, l'écologie punitive. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les Français se sentent brusqués. Les Français se sentent méprisés. Quand j'entends Madame Heyer nous dire « Non, mais acheter une voiture électrique », il y a beaucoup de Français qui n'ont aujourd'hui pas les moyens de le faire. C'est un fait. Les Français, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique à hauteur de 45-50 000 euros. Donc déjà, il faut qu'on arrête cette écologie punitive qui est désastreuse pour la société française dans son ensemble. On veut arrêter de culpabiliser les Français. Il faut arrêter de culpabiliser le travailleur qui va prendre sa voiture, qui habite dans une campagne et qui est obligé de prendre sa voiture, qui ne peut pas faire de covoiturage, qui n'a pas de transport à proximité. Il faut arrêter de le culpabiliser. Nous, ce qu'on propose concrètement, c'est la mise en place d'une écologie qui soit d'une écologie qui passe par l'économie, qui doit être une économie locale et circulaire. Par exemple, ce qu'on propose, c'est qu'on ait 80% des produits français dans les cantines d'ici à l'horizon 2027. Ça, c'est une mesure très concrète, puisqu'aujourd'hui, on importe des produits de l'autre bout du monde alors qu'ils pourraient être produits à quelques kilomètres d'ici.
Donc, si on peut dire que quand même les circuits courts, c'est quand même de plus en plus, je dirais, largement pratiqué par les conseils départementaux, notamment dans les cantines.
Bien sûr, c'est de plus en plus.
Ou la région dans les lycées, ou les écoles par les municipalités.
Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Et ce sont de très bonnes initiatives, qui sont d'ailleurs des initiatives que l'on appelle, j'appelle personnellement, de l'écologie de bon sens. Nous, on veut vraiment atteindre cet objectif de 80% de produits français dans les cantines d'ici à 2027. Et également, une autre mesure qui est écologique, parce que béaba, mais on veut interdire les produits agricoles qui ne respectent pas nos normes. Aujourd'hui, on a des produits agricoles qui sont importés en France et qui sont produits dans des conditions désastreuses pour l'environnement. Désastreuses. Donc, ça, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête avec cette situation qui est un casse-tête pour nos agriculteurs et pour l'écologie.
Élise Leboucher.
Oui. Alors, c'est un sujet très très important. C'est même le défi du siècle et on ne peut pas faire d'écologie sans parler de social. Ça va évidemment ensemble. C'est de la justice sociale et écologique et c'est bien ce que propose notre programme. C'est la cohérence du coup de ce programme. Je pense notamment à une des mesures fortes qui est de garantir des tarifs accessibles et de faire une gratuité ciblée, par exemple, pour les transports en commun et les transports publics. Et pour ça, il faut aussi développer les transports publics dans tous les territoires. C'est vraiment, on ne peut pas regarder la partie écologique que par la partie écologique. Il faut vraiment, c'est un ensemble, il faut répondre à toutes les mesures. Et la réouverture des services publics dans tous les territoires font que les personnes ont besoin de moins se déplacer et d'aller moins loin. C'est tout un ensemble comme ça de réflexions. Et en tout cas, voilà, je suis un peu en désaccord avec ce que vient de dire, beaucoup en désaccord avec Noël Rosier. C'est l'enjeu du siècle. C'est pas la question de faire culpabiliser les gens, mais c'est aussi de mettre les grandes entreprises au pas aussi de l'écologie.
Pierre-Adrien Frère, pour les Républicains.
Alors, le problème majeur sur notre circonscription, donc c'est avec la ruralité, c'est le fait de se déplacer. On sait tous que se déplacer avec un véhicule à moteur, c'est forcément ça pollue. Mais j'ai pas envie de culpabiliser les habitants de la circo parce qu'ils utilisent leur véhicule faute de ne pas avoir assez d'offres de mobilité, notamment sur les trains. Où j'ai travaillé au collège de Sillé et j'ai eu plein de collègues qui venaient en train, qui faisaient l'effort de venir en train justement dans un souci d'écologie et qui se plaignaient de nombreuses fois d'arriver en retard parce qu'il y avait des grèves très souvent, pratiquement de manière hebdomadaire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir un service minimum et une loi qui encadre le droit de grève, notamment sur les grèves au niveau de la mobilité et des transports.
Sylvie Cazenave-Perret, très rapidement sur cette question du climat par rapport à votre temps de parole.
Le climat, c'est le temps long. Et vous vous souvenez sans doute du Grenelle de l'environnement qui avait été effectué sous la présidence de Monsieur Sarkozy. Eh bien, depuis, beaucoup d'agriculteurs, et j'en ai rencontré, beaucoup d'entreprises se sont inscrites dans le bilan carbone pour réduire les gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui que la France a réduit ses gaz à effet de serre de 6%. C'est pas beaucoup. On a des objectifs qui sont bien meilleurs. Mais je pense que l'ADEME, qui est l'association et qui est l'organisation pour le gouvernement qui accompagne nos organisations, est présente dans nos territoires pour accompagner les collectivités territoriales, les mairies évidemment, mais aussi nos agriculteurs et nos entreprises sur ce chemin.
Merci Sylvie Cazenave-Perret, on rappelle que vous êtes la candidate Ensemble pour la majorité présidentielle. Nous arrivons au terme de ce débat. Pour conclure en une minute, quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur? Le tirage au sort a désigné pour commencer, justement, Pierre-Adrien Frère, suppléant de Léo Brizard, candidat Les Républicains.
Alors, nous, ce qu'on veut, c'est incarner l'alternative donc, entre les trois blocs, entre deux parachutés et un programme irréaliste d'un point de vue financier. Et notre proposition qui nous tient le plus à cœur, c'est vraiment de d'inciter les Français à travailler. Et que c'est par le travail que viendra aussi leur pouvoir d'achat. On les y aidera avec les réformes dont on a parlé pendant ce débat et les nombreuses autres réformes que nous avons aussi dans notre programme. Donc, s'il y a vraiment un mot à retenir, c'est le travail. La France au travail.
Noël Rosier, vous êtes le suppléant de Marie-Caroline Le Pen pour le Rassemblement National. Quel est le point de votre programme qui vous tient le plus à cœur, s'il vous plaît ?
Marine Le Pen a été la première à mettre sur la scène politique la question du pouvoir d'achat. D'ailleurs, à l'époque, tout le monde se moquait un peu d'elle. Aujourd'hui, ce que je veux mettre en avant, ce n'est pas une mesure qui, en elle-même, ne pourra pas changer le quotidien des Français et des habitants de la 4e circonscription de la Sarthe. Moi, je veux mettre en avant le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est la thématique principale. J'ai déjà expliqué les deux mesures d'urgence dont nous allons mettre en œuvre. Et nous en avons d'autres. Déjà, les Français pourront également compter sur la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, ce qui est possible depuis une révision de la directive service. On propose également une exonération pour le travail, hein, pour remettre la France au travail. Nous proposons une exonération des cotisations sociales pour les augmentations de salaire jusqu'à 10% pour les salaires qui sont inférieurs à 3 fois le SMIC.
Élise Leboucher, vous êtes la députée sortante de la France Insoumise qui est investie par le nouveau Front Populaire. Le point essentiel de votre programme pour vous ?
Alors, le point en lui-même est un point essentiel puisque c'est un programme de rupture totale avec ce que propose du coup la majorité présidentielle et un autre choix de société que le programme du Rassemblement National. Une mesure qui représente ce qu'a été la politique macroniste de ces dernières années, c'est qui est très importante pour le nouveau Front Populaire. Et qui va parler aux gens de la 4e circonscription qui se sont mobilisés, c'est l'abrogation de la réforme des retraites dès les 15 premiers jours où nous serons au pouvoir.
Sylvie Cazeneuve-Perret, vous êtes la candidate Ensemble pour la République, majorité présidentielle. Votre point de programme essentiel, très rapidement.
Eh bien, je pense qu'on peut être pour l'ordre et la sécurité sans être à la droite de la droite. Je pense qu'on peut être pour le social et le travail sans être à la gauche de la gauche. Et je pense qu'on peut être l'écologie sans l'enfermer dans un parti. C'est ma conviction d'union, ma conviction d'engagement, d'énergie pour la Sarthe, pour les Sartoises et les Sartois de la 4e circonscription.
Merci beaucoup à vous d'avoir participé au débat démocratique dans le cadre de ce premier tour des élections législatives. Rappelons que les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Merci à Romain Linan pour sa réalisation technique, à Robin Hulin, Brian Bellardan, Merlin Gravelot et Frédéric Chauve d'y avoir contribué. Demain, toujours en direct de midi à 13h, dernier débat du premier tour des législatives. Nous recevrons 4 des 5 candidats de la 5e circonscription pour que vive la démocratie. Dimanche, votez pour élire votre député.